Chapitre 3. Quand Madame Aftalion, qui, au dernier moment, n'avait pas voulu que Nicolas l'accompagnât parce qu'elle craignait que les deux hommes ne s'entendissent point, pénétra dans la garçonnière de son frère, celui-ci poussa une exclamation de surprise. « Toi, Louise, c'est incroyable !» Il ouvrit toutes les portes, pria la concierge de préparer du thé parce que la femme de ménage était en retard, disposa trois ou quatre coussins dans un fauteuil. « Allons, assieds-toi là, grande sœur en or !» Il ne savait que faire pour la mettre à l'aise. Charles, le seul frère de Madame Aftalion, Marc ayant été tué à Verdun, avait complètement rompu avec sa famille qu'il traitait de vieux jeu. La guerre avait éclaté alors qu'il venait de terminer ses études. De 1914 à 1918, il fut blessé 7 ou 8 fois. Dans la Somme, son courage lui valut le grade de capitaine. À la démobilisation, il avait loué, rue de Meaux, un rez-de-chaussée qui transforma en garçonnière. Grand et fort comme sa sœur Thérèse, il menait une vie encombrée d'amis. À chaque instant, on lui téléphonait. « C'est toi, vieux Charles, tu nous rejoins ce soir ?» À quoi il répondait « Promis ». Au milieu de la nuit, des camarades frappaient à ses volets pour l'éveiller et, lorsqu'il ouvrait, enjambaient la barre d'appui et pénétraient chez lui. Il déjeunait toujours dehors, avait des rendez-vous jusqu'à 5 heures avec des bougres de clients, comme il disait, prenait l'apéritif au Vepler de la place Clichy, dînait en compagnie d'Alice, sa maîtresse et d'autres couples dans un restaurant-auberge du côté de l'Étoile, et ensuite, en bande, allait faire du scandale dans quelques théâtres de quartier, souper à Montmartre, pour finalement rentrer chez lui à 4 heures du matin. Le lendemain, à 9 heures, il était debout, à moitié inconscient. Pour se remettre, il prenait une douche froide, puis, en caleçon, les mollets entourés de soutien-chaussettes, le buste au chaud dans une flanelle, il faisait quelques exercices, avec un sandeau fixé au mur de la chambre à coucher, soulevait 20 fois de suite de petites haltères qu'il roulait ensuite sous le lit. Alors seulement, il se rendait dans la salle à manger où la femme de ménage avait servi, entre-temps, le petit déjeuner. En mangeant, il jetait un coup d'œil sur la première page du journal. À 10 heures, il partait pour son garage, non sans donner une liste de réponses à sa femme de ménage, au cas où Graff, Ussiani, l'évêque ou un autre ami lui téléphoneraient. Jamais il n'avait une minute à lui. L'emploi de son temps était fixé à 2 jours d'avance. Quand, le dimanche, il se rendait en automobile avec Alice, soit au Havre, soit à Chartres, il devait se défendre d'un sentiment de lassitude. Les amis, le mouvement de la ville, les rendez-vous lui manquaient. À ses yeux, les malades n'étaient jamais gravement atteints. « Ça va mieux ?» demandait-il en arrivant. Il offrait des bonbons, riait, faisait des mots, racontait des anecdotes, car dans son esprit, toutes les maladies étaient morales. Il suffisait de vouloir pour se guérir. « Allons, un peu d'énergie, dis-moi que tu n'as rien !» Il était généreux sans arrière-pensée, d'une façon naturelle. « Tu as besoin de 6 billets, repasse le 16. » À la date indiquée, il tenait parole. « Merci, tu es régulier, lui disait son ami. » Chaque premier jeudi du mois, il retrouvait dans un cabinet particulier d'un restaurant du Faubourg Montmartre une dizaine d'anciens officiers du 132e d'infanterie avec lesquels il avait fait la guerre et qui s'étaient groupés sous l'appellation « les rescapés du 13-2 ». Les dîners, à 22 francs le képi, comme il était écrit sur les invitations, étaient modestes, mais se continuaient chaque fois dans des libations qui n'en finissaient plus. C'était à celui qui tiendrait le mieux. Parfois, le convive qui semblait le plus calme tombait tout à coup comme assommé. On le portait dans le vacarme et le bruit de vaisselle brisée sur un canapé. Certains chantaient à tue-tête. D'autres essayaient d'attirer parmi eux quelques femmes sortant d'un cabinet particulier voisin. À la fermeture du restaurant, il gagnait la rue en titubant et, bousculé dans la foule, ne tardait pas à se perdre. Le lendemain, durant le jour, Charles répétait « Vous parlez d'une bringue, ça compte dans la vie d'un homme. Des liqueurs, du vin, de la bière, on a bu de tout. As-tu froid, faim, chaud, soif ? » demanda-t-il à sa sœur. À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit. Il prit l'appareil. « Qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas me laisser tranquille ? Je ne réponds pas !» Et il raccrocha le récepteur. « Alors, te voilà. Je parie que tu arrives de Fridolie. » Il appelait ainsi l'Allemagne, les États des Balkans, la Russie. Madame Aftalion se mit à rire. « De chez Thérèse, plutôt. »« À la tienne. Quel imbécile, ce Coquerel. Qu'est-ce qu'il se croit ? Charles, vous devriez faire attention. » C'est tout ce qu'il sait me dire. Je n'ai jamais vu un imbécile pareil. Il n'y a pas de mal à battre les records. Il veut se mêler de mes affaires, me donner des conseils, avec son air de crétin content de soi. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Moi, je n'aime pas les gens qui, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, s'imaginent que le monde entier les écoute. Voilà. Il n'a qu'à me laisser la paix. Et Thérèse, qui reste sidérée devant lui, elle l'admire. Il fait le pacha. Il est assez malin. Comme le regard de Madame Aftalion s'était posé sur une chemise de femme qui pendait au dossier d'un fauteuil, il continua. Tiens, dis-leur que tu as vu une chemise de femme chez moi. Tu verras la tête qu'ils feront. Mais quelle idée as-tu eue d'aller habiter chez eux ? Tu sais bien, quand on est seul, on aime bien sentir autour de soi des gens qui ne sont pas des étrangers. D'ailleurs, demain, nous partons. La vie est intenable chez eux. Je voulais justement te demander si tu connaissais quelque chose. » Charles, qui marchait de long en large, s'arrêta. « Chez moi ? Mais tu ne serais peut-être pas tranquille. »« Je comprends bien. Je ne voudrais d'ailleurs pas. »« Pourquoi ? Il ne faut pas te gêner avec moi. » »« Non, non, tu es garçon, ce n'est pas la même chose. » J'ai été chez Thérèse parce que je pensais qu'elle comprendrait ma situation. Elle a un grand appartement. En attendant, si elle avait été gentille, nous aurions pu vivre chez elle. Tu ne dois pas être seule. Ton fils est avec toi. Mais oui, ne serait-ce qu'à cause de cela, je ne voudrais pas te déranger. Pourquoi ne prendrais-tu pas un appartement meublé en attendant? Comme cela, tu aurais le temps de voir venir. Cela se trouve... « Tant qu'on veut, entre dans la première agence, on te donnera 100 adresses. Je reconnais que c'est un peu cher, mais on rattrape le loyer sur la nourriture. Tu comprends bien que si tu es à l'hôtel, il faut que tu manges au restaurant, et à l'heure actuelle, un repas, c'est 20 francs. Compte au bout du mois à deux. Et un appartement vide ? Ah, ça, c'est autre chose. Il faut le temps, et même avec le temps, il y a toujours la reprise de 50 billets. » 50 billets de quoi ? De 1000 ? Alors, il vaut mieux ne pas y penser. À ce point ? Non, mais enfin, après tout ce qui est arrivé, nous n'avons plus grand-chose. Je comprends. On n'a pas besoin d'insister pour que je comprenne. Eh bien, tu sais, un conseil. Ne perds pas de temps. Ton fils a quel âge ?
23 ans.
Tout est bien, alors. Il n'aura qu'à travailler dur. Et puis, tu verras que tout s'arrangera. C'est toute seule que les choses s'arrangent, à condition de travailler naturellement. Moi, personnellement, je t'engage à prendre un appartement meublé. Pas besoin de luxe. Avec ce que gagnera le petit, tu seras tranquille. Toi, de ton côté, tu peux donner des leçons. Tu savais le piano, il me semble. Maintenant, si tu veux, je peux te prêter une chambre et lui couchera à l'hôtel. » Dans le désordre de la garçonnière, Charles allait et venait. Louise devinait son embarras. Aussi, par fierté, dit-elle tout de suite, « Penses-tu, je ne veux pas te déranger. Tu es bien gentil, mais je m'arrangerai toujours. » « As-tu des bagages ?»« Je ne les ai pas encore retirés de la consigne. Thérèse se plaignait continuellement d'être à l'étroit. Si tu veux les mettre dans la chambre de bonne, elle est à ta disposition. » Je ne peux pas trouver une bonne, ou alors ce sont des idiotes. Cela coûte cher le loyer d'un appartement meublé. Il y en a à tous les prix. 1000, 2000, 5000 par mois. 500, mais alors des taudis. C'est terrible. Mais tout est comme cela à Paris. C'est un commerce. Il y a des agences. Il y a un service de surveillance à la préfecture. Il y a des lois. Tu en verras bien d'autres. C'est pour cela que je te conseille d'organiser ta vie tout de suite. Et puis, tu sais, ne te gêne pas avec les gens, ils ne se gêneront pas avec toi. Le lendemain matin, Madame Astalion et son fils quittaient les Coquerel et, en attendant de trouver un appartement meublé qui leur convint, allèrent habiter un hôtel de la rue Lafayette qui leur avait été recommandé par un commerçant de Nice au cas où ils se rendraient à Paris. Durant une quinzaine de jours, Nicolas se mit à la recherche d'un appartement dont le loyer mensuel ne dépassa pas 1 000 francs, mais qui fut tout de même pourvu d'une salle de bain et d'un salon. Le soir, il rentrait exténué. Il faudrait mettre le double, disait-il, pour avoir quelque chose de bien. Si tu voyais ces appartements, ils sont obscurs, sales, mal meublés. On y deviendrait neurasthénique. Pour 2 000, alors, je crois qu'on trouverait quelque chose de bien. Mais tu sais bien qu'il ne me reste presque plus d'argent. Madame Astalion était molle dans ses objections. Le confort, la vie facile l'attiraient. Du moment qu'elle possédait de quoi satisfaire immédiatement ses besoins, peu lui importait l'avenir. Ce n'était que pour s'excuser qu'elle raisonnait. En réalité, elle souhaitait de se trouver devant le fait accompli. Finalement, Nicolas arrêta un appartement dans un immeuble de belle apparence, rue Eugène Manuel, dont le loyer était de 1 500 francs par mois. Tu n'aurais pas dû, fit Madame Astalion. Dans 3 mois, comment ferons-nous pour payer un tel loyer? D'ici là, on verra bien. Je t'assure que tu n'aurais pas dû. Ces mots furent ses seuls reproches, tant elle se réjouissait au fond de quitter l'hôtel et de pouvoir enfin déballer ses malles, disposer autour d'elle tout ce qu'elle possédait, aller et venir dans plusieurs pièces. Cet appartement, situé au 2e étage, était formé de la moitié de notre appartement beaucoup plus grand. La même entrée servait aux 2 tronçons. Si vous voulez recevoir, prévenez-moi 2 jours d'avance. Je mettrai mon grand salon à votre disposition, avait dit le propriétaire, qui s'était réservé les pièces donnant sur la rue et qui, parce que la salle de bain se trouvait dans la partie louée, en avait aménagé une 2e à son usage dans un petit réduit. La cuisine, par contre, était située dans sa partie à lui. Aussi, celle des Astalion, improvisée dans une alcôve masquée par des battants que le propriétaire avait exprès fait poser, n'avait-elle point de fenêtre, si bien qu'un écriteau recommandait aux locataires de ne point faire de friture, cela dans leur intérêt. La cour sur laquelle donnaient les chambres des Astalion était vaste et à prétention moderne. Au milieu, surélevé à la hauteur d'une marche, se trouvait une sorte de bassin dans lequel verdoyait une pelouse minuscule. Encore était-il dans les conditions de payer 2 mois d'avance et de verser une provision qui répondait des détériorations possibles. Après avoir été chercher leur malle à la gare de Lyon, les Astalion se firent conduire rue Eugène Manuel. Il était 9 heures du soir. La nuit était tombée. Dans cet appartement triste et pompeux, ils se sentaient perdus. Ils n'avaient pas dîné. Descends chercher du jambon, fit Madame Astalion. Attends une seconde, je vais t'inscrire sur un bout de papier tout ce qu'il faut. Et dépêche-toi, parce que tout va être fermé. Restée seule, Louise fit la lumière dans toutes les chambres et ferma les volets. Elle entendit, à travers une porte condamnée que masquait une tenture, une conversation douce dans la pièce voisine. Le propriétaire et sa femme recevaient quelques amis. Le sacrifice de la moitié de leur appartement était consenti de si longue date qu'ils ne songeaient même pas à leur nouveau locataire. Ils n'avaient point peur du lendemain. Pour eux, cette journée était semblable à toutes celles qu'ils vivaient depuis des années. Madame Astalion ne put se défendre d'un sentiment de détresse plus grand encore. D'être ainsi perdue dans une rue inconnue, à côté de gens paisibles dont elle vivait presque la vie et qui étaient pourtant si loin d'elle, lui causait une impression désagréable. Elle eût désiré que ses propriétaires vinssent frapper à sa porte, l'invitassent à passer la soirée près d'eux, lui parlassent avec douceur puisqu'elle partageait leur intérieur, et de se sentir, au cœur de leur appartement, aussi étrangère pour eux qu'une femme dans la rue, lui causait une sorte de malaise. Louise alla et vint dans toutes les pièces. Les meubles qu'elle ne connaissait pas, aux formes desquelles elle n'était pas habituée, l'entourait d'une atmosphère hostile. Quand elle les touchait, il lui semblait que tout à coup, ils allaient se casser et que, puisqu'il n'y avait point de témoins, elle devrait les remplacer. Des détails bizarres lui sautaient aux yeux. Une ampoule brûlée du lustre du salon demeurait au milieu des autres, ainsi qu'un trou noir. Une table incrustée de laque tremblait quand on passait à côté d'elle. Une longue pipe bavaroise était accrochée dans la salle à manger. Tous les bibelots, posés n'importe où pour meubler, semblaient étrangers les uns aux autres. À chaque instant, Madame Aftalion relisait l'inventaire, prise soudain de frayeur d'avoir signé pour trop de choses. Bien qu'il y eût partout des tapis, des tentures, des coussins et des abat-jour aux lampes, ces pièces paraissaient n'avoir jamais été habitées. On devinait que les précédents locataires avaient emporté, en s'en allant, ceux qui vivaient et n'avaient laissé que ceux qui, comme les murs, demeuraient éternellement. Aussi, quand Nicolas reparut chargé de paquets, éprouva-t-elle un profond soulagement. Après avoir dîné sommairement, sans appétit, en parlant si doucement que parfois il se mettait à rire et disait à haute voix « On croirait que nous sommes dans une église. Nous avons bien le droit de parler. » Jusqu'à ce que, insensiblement, sans même s'en rendre compte, ils baissassent le ton, ils se rendirent dans la chambre la plus à l'écart. « On défait les malles ce soir ?»« Mais oui, maman, on se sentira mieux chez nous après. » La perspective de mettre ses robes à l'air, de revoir une foule d'objets qui lui avaient tenu compagnie depuis des années, remonta Madame Aftalion. Sur tous les meubles, elle plaça des photographies, des petits vases, des flacons. Elle accrocha ses manteaux dans une penderie, porta dans la salle à manger sa théière, ses petites cuillères en argent, étala un châle sur un fauteuil du salon. « Dans quelle chambre je mets ta photographie ? » demanda-t-elle à son fils. « Dans le salon. » « Et le plateau ?»« Aussi. » D'un panier, dont elle avait eu honte devant la concierge parce que deux coussins y étaient ficelés, elle tira son coffret à couture, qu'elle plaça sur une coiffeuse, à la glace de laquelle manquait une glissière, si bien qu'en la baissant, on risquait de tordre celle qui restait. « Ce tiroir est pour toi, » dit-elle à Nicolas. Comme elle n'avait pas de journaux pour recouvrir les étagères, elle laissa son linge au fond d'une malle. Sur chaque meuble, elle posa un livre. Quand tout fut déballé, Nicolas plaça les malles les unes sur les autres dans un coin. « Cela ne sera pas si mal que cela, dit-il, quand on sera habitué. »« Il manque des fleurs. »« Cela ne presse pas. »« Comme toujours, quand on sera habitué, il faudra partir. »« Pourquoi, maman, tu crois que je vais rester comme cela sans rien faire ? Je vais gagner de l'argent. »
Ton père le disait aussi.
Ce n'est pas la même chose. Louise, qui n'en pouvait plus, s'allongea sur le divan du salon. Assieds-toi, Nicolas, on va parler un peu. Je n'aime pas quand tu es debout. Si les Coquerel nous voyaient, ils en feraient une sale tête. Si on les invitait, le propriétaire nous prêterait le grand salon. Tu l'as vu ?
Ne parle pas comme cela, Nicolas.
Ce que venait de dire son fils avait amené Louise à songer à la fragilité de sa situation. Elle se sentait trop faible pour provoquer sa sœur. Il lui semblait que cela se retournerait contre elle et qu'alors, au lieu d'être entourée par des indifférents, ce serait par des ennemis.
« Tu ferais mieux d'aller voir les Rousseau. Ils t'aimaient beaucoup quand tu étais enfant. Ce sont les seuls qui ne se sont pas détournés de ton père et de moi. » « Eux, peut-être, pourront-ils te trouver une situation ?»«
Eh bien, j'irai. Pourquoi veux-tu que je n'y aille pas ?» À présent que le déménagement était achevé, les Aftalion, entourés de tout ce qu'ils possédaient, reprenaient confiance.
« Certainement, ils te trouveront quelque chose. Mon pauvre père disait de M. Rousseau que c'était la bonté même. »«
Tu viendras aussi, maman ?»«
Pas le même jour. » C'est mieux que tu y ailles le premier. Je ne peux pas avoir l'air de faire pression. Devant moi, il serait tenu de promettre. J'aurai toujours le temps après si cela ne réussit pas.
Bon, bon, ne te fâche pas.
Je ne me fâche pas, mais rends-toi compte de notre situation. Cela ne pourra pas durer longtemps. Il faut absolument que tu trouves une place. On doit d'ailleurs pouvoir trouver. Après une guerre comme celle-là, Un homme, cela a de la valeur. » Elle s'imaginait que les hommes manquaient, qu'il suffisait de se présenter quelque part pour être accepté, que son fils, d'être en bonne santé, jeune et intact, avait une grande valeur. La certitude qu'une vie meilleure allait commencer l'illumina. « Tu lui expliqueras notre situation. Maintenant, on ne sait jamais. Si cela n'allait pas, il y aurait encore les Prudhons, les Massebio, les Guérin. » En parlant, Madame Aftalion voyait son fils sollicité de toutes parts. Et même si tous ses amis ne pouvaient rien, il resterait Madame Nazarov. « J'irai la voir. Elle a tellement de relations. Tu verras, tout s'arrangera. C'est encore sur les étrangers qu'il vaut mieux compter. » Quelques jours après, Nicolas se rendit chez les Rousseau, qui occupaient rue de la Tour, un appartement pourvu d'une véranda vitrée, aménagé dans la coupole même de l'immeuble et où le soleil donnait toute la journée. M. Rousseau avait été l'ami intime de M. Perrier. Cependant que ce dernier s'était tourné tout de suite vers le commerce, il était devenu architecte à cause d'un goût pour le dessin. C'était à présent un homme de 65 ans dont l'honnêteté était proverbiale. Plusieurs fois il avait été berné, tellement il avait eu confiance en autrui. Aussi, en vieillissant, était-il devenu susceptible et croyait-il toujours devant un étranger qu'on cherchait à le tromper. « C'est un homme sans honneur, » disait-il en parlant d'un escroc. Son portrait, peint également par Bilia, se trouvait au salon et à la façon dont l'architecte était assis, on avait l'impression qu'il allait se lever. On reconnaissait sur lui la même chaîne de montre que sur le tableau. Le fond de celui-ci représentait la même tapisserie qui recouvrait encore un mur de la pièce. M. Rousseau était sentimental et vouait un culte aux fleurs, aux bibelots, aux peintures léchées. Il adorait les jeux de société et était très gourmand. Il connaissait les spécialités de presque tous les restaurants de Paris et, quand il était invité à dîner, il apportait toujours une langouste qu'il achetait avenue Victor Hugo où, disait-il, elles sont meilleures que partout ailleurs. Son bureau était une véritable salle de musée. Une foule de bronzes, de statuettes, de presse-papiers l'encombrait. Chacun de ces objets portait, collé sur son piédestal, une pastille de papier sur laquelle était inscrit un numéro qui était reporté sur un gros cahier où il avait noté la valeur de l'objet, le jour où il en avait fait l'acquisition, sa provenance. On y lisait, par exemple, 974. Un des quatre moulages du Centaure de Manoni, 14 août 1902, don de Jean-Jacques Guérin. Les murs du vestibule étaient couverts de plans, de photographies de villas dont il avait été l'architecte, de gravures d'avant-guerre. Les constructions dont il était le plus fier étaient une maison de repos sur les bords de la Loire, que des artistes avaient habité, et un immeuble de 6 étages sur les grands boulevards, où la seule fois de sa vie, il avait dû veiller à ménager une cage pour l'ascenseur. Dans sa conversation, on devinait l'homme désabusé. « C'est un quartier qui m'est cher, » disait-il en parlant de Passy. « Mon père y est né, j'y suis né. Aussi ai-je pensé que c'était encore ici qu'il vaudrait mieux que je finisse mes jours. » En pénétrant dans le bureau, Nicolas remarqua tout de suite que M. Rousseau avait, sous l'œil, une grosseur teintée de bleu qui tirait la chair et donnait au regard une fixité étrange. Juste à ce moment, le téléphone retentit. L'architecte prit l'appareil et, par un hasard curieux, ce fut justement de cette grosseur qu'il s'entretint. L'interlocuteur invisible semblait être un docteur. Nicolas éprouva un sentiment bizarre à la vue de cet homme grand et fort qui parlait de son mal comme celui d'un étranger, avec le même calme que s'il se fût agi d'une affaire. « Je ne crois pas, disait-il dans le récepteur, que cela ait un rapport avec mon opération. Je sens simplement une lourdeur. » 2 ans auparavant, M. Rousseau avait, en effet, été opéré à la base du nez d'un point cancéreux qui avait menacé l'œil. Avant, ce point s'était trouvé sur la joue gauche. S'étant coupé une fois en se rasant, il avait disparu, puis, 5 ans après, avait reparu tout à coup à la base du nez. Une greffe à l'italienne avait enrayé le mal. « Ce n'est pas grave, » dit-il après avoir accroché le récepteur. « S'il y avait une inflammation à l'endroit de la greffe, je pourrais m'inquiéter. Cette grosseur est, à mon avis, consécutive à de la fatigue. Malgré tout, il faut que je fasse attention. Je ne suis plus à un âge où l'on rit des maladies. » Surpris par cette réception, Nicolas ne savait quoi dire. Il attendait que M. Rousseau lui posât des questions. Mais l'architecte était tout à ses pensées. La perspective d'une nouvelle opération, de laquelle il ne se remettrait peut-être pas, ne quittait point son esprit et l'épouvantait tellement qu'il ne songeait même pas à faire un effort pour recevoir Nicolas aimablement. Comme la plupart des vieillards, il n'éprouvait aucun embarras à montrer au grand jour ses maux physiques et à leur donner une importance exagérée. Finalement, il s'exclama. « C'est donc vous, l'enfant que j'ai connu ? Cela ne me rajeunit pas. Et votre mère, où est-elle ? Elle n'a pas osé vous déranger. » « Elle n'a pas osé ? Est-ce possible ? Je suis un peu surpris. Ce n'est pas gentil de sa part. Se gêne-t-on avec un homme de mon âge ? Elle n'a peut-être pas voulu faire de frais. J'habite si loin. » M. Rousseau était devenu, en vieillissant, d'une avarice telle que les moindres dépenses lui semblaient exorbitantes. La valeur du franc avait beau baisser, il ne voulait pas l'admettre et continuait à verser pour le ménage les mêmes sommes qu'avant-guerre. Il avait pourtant l'impression qu'on ne savait pas le prendre et qu'il était très généreux. Quand, par exemple, il faisait expulser un locataire, car il était propriétaire de cet immeuble, il disait que si on était venu le trouver, si on lui avait parlé gentiment comme on eût dû le faire, il eût été le premier à consentir un nouveau délai. Mais jamais les choses ne se passaient comme il avait désiré intérieurement. Avec des relations nouvelles, il était d'une amabilité extraordinaire. Sous elle perçait cependant l'attente dans laquelle il vivait d'une parole ou d'un acte qui le blesserait. En prévision d'une rupture, il ne cessait de faire des allusions sur le sans-gêne et l'égoïsme du monde et de répéter « On peut faire de moi ce que l'on veut quand on est sincère, mais dès que je m'aperçois de quelque chose, c'est fini, fini pour toujours. » « Alors, mon petit enfant, dit-il, vous êtes seul, votre mère n'a pas voulu me déranger. Je ne lui connaissais pas ses prévenances. » Nicolas devina que l'architecte était froissé. « Je comprends cela. Vous pouvez lui dire que je ne la force pas. Ce n'est pas dans mon caractère de forcer les gens. Je n'impose rien à personne. Avec moi, on fait ce qu'il vous plaît, de même que moi, je fais ce qu'il me plaît. Je sais, c'est la vieille école. » Il montra d'un geste circulaire son bureau. « Je vis là, tranquille, sans faire de mal à personne. Je suis déjà vieux, je ne barre la route à personne. Pourtant, beaucoup m'ont déjà enterré depuis longtemps. Vous êtes jeune, vous ? » ?»«
J'ai 23 ans. »
« Ah là là, ce n'est pas moi qui recommencerai ma vie si je le pouvais. Quand on pense à tout ce qui vous attend à chaque tournant, eh bien, je vous assure que l'on est heureux de ne plus compter sur rien et d'être là. »
De nouveau, il désigna ses biens.
« Il ne me reste plus qu'à attendre tranquillement la fin. Je ne souhaite pas qu'elle arrive demain. Pourtant, cela serait que je dirais « tant pis ». Mais asseyez-vous donc, jeune homme, vos jambes ont beau être solides. »
Nicolas ne put s'empêcher de remarquer que l'inquiétude qu'avait eue le vieillard en téléphonant au docteur contredisait cette indifférence.
« Ma mère m'a prié de vous demander quand elle pourrait venir vous voir, » dit Nicolas pour apaiser l'architecte.
« Taratata, elle n'a rien prié du tout. »
« Mais si, elle voudrait savoir quand elle pourrait venir. »
« Quand elle pourrait venir ? Quelle question ! Mais quand elle veut ? Elle le sait bien, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»
M. Rousseau se leva péniblement.
« Excusez-moi une seconde, dit-il. Je vais chercher ma femme. Il faut qu'elle vous voie aussi. »
Resté seul, Nicolas n'eut plus qu'une pensée, partir. Ce vieil homme lui était aussi étranger qu'un passant. Pourtant, de crainte de fâcher sa mère s'il ne le faisait pas, il résolut de demander tout de même une aide dès que l'occasion se présenterait. Quelques instants après, M. Rousseau revint seul.
« Ma femme veut vous voir. Vous avez bien une minute, n'est-ce pas ?»«
Mais certainement, monsieur, » répondit Nicolas, qui, à cette dernière question, avait senti combien M. Rousseau se souciait peu qu'il restât.
« Si je me souviens bien, c'est autour de 1905 que vos parents ont quitté Paris. »
Il me semble que c'est cela.
Et votre père est mort, je crois.
Allez, la guerre n'a pas tué seulement des soldats. Regardez cette photographie. C'est mon fils. Le pauvre garçon a été emporté en 8 jours par la grippe.
Monsieur Rousseau s'interrompit. Sa femme venait d'entrer dans le bureau. Même dans l'appartement, elle s'appuyait sur une canne. Elle porta à ses yeux un face-à-main, regarda longuement Nicolas, puis, se tournant vers son mari, demanda
« C'est le fils de ces aphtalions ?»«
Oui, de mes aphtalions. »
De nouveau, elle promena avec attention son regard sur Nicolas.
« C'est un beau jeune homme !»
S'adressant à son mari, elle ajouta
« Le petit Pietri serait heureux de le connaître. Il n'a point d'amis. C'est un garçon si solitaire.
« Vous avez des camarades ?» demanda-t-elle à Nicolas.
« Non, madame. »«
Ce n'est pas joli. Un jeune homme doit avoir des camarades. Il faut vous habituer à fréquenter des jeunes gens de votre âge. Je parlerai de vous à madame Pietri. »
Sur ces mots, madame Rousseau se retira lentement. Comme l'architecte demandait à Nicolas où il habitait, celui-ci, qui cherchait depuis un moment une occasion de parler de sa gêne, en profita pour dire d'un trait « Nous avons loué, rue Eugène Manuel, un appartement meublé en attendant. Lorsque j'aurai une situation, nous nous installerons chez nous. »«
Vous cherchez une situation ?»«
Je voudrais bien en trouver une. »«
Cela doit être difficile aujourd'hui, dites-moi. »«
Comme cela. »«
Et quel genre de situation cherchez-vous ?»«
N'importe laquelle, » fit Nicolas étourdiment. »
Cette réponse causa sur M. Rousseau un effet déplorable. En un instant, tout ce qu'il avait imaginé des aphtalions se précisa. Ils étaient bien comme il l'avait supposé, prêts à tout, sans but. On pouvait leur donner une fortune qu'il la dilapiderait en quelques mois. Un doute qui expliquait la visite de Nicolas germa tout à coup dans son esprit. Les aphtalions étaient gênés. Ils avaient déjà dû frapper à toutes les portes. En désespoir de cause, Nicolas était venu chez lui. Monsieur Rousseau regretta alors d'avoir appelé sa femme, qui, comme il le lui faisait d'ailleurs observer à chaque instant, n'avait pas manqué une fois de plus de faire une gaffe en s'efforçant de lier Nicolas au jeune Pietri, fils taciturne de riches viticulteurs de la région de Bordeaux. « Je n'ai pas de conseils à vous donner, fit-il, mais il me semble que vous devriez, avant de continuer vos recherches, arrêter votre choix sur la carrière pour laquelle vous vous sentez le plus d'aptitude. »
« C'est vrai, vous avez raison, monsieur. »
Dans un élan, Nicolas ajouta
« Vous, monsieur, peut-être pourriez-vous faire quelque chose pour nous. Je connais 2 langues étrangères, l'anglais et l'allemand. »
Monsieur Rousseau réfléchit quelques instants, puis demanda avec froideur
« Êtes-vous français seulement ?»«
Naturellement. »
« Je ne suis pas si certain que vous. Votre père était étranger, il me semble. » À moins d'opter pour la France, vous gardez sa nationalité.
C'est le contraire. Il faudrait que j'opte pour la nationalité de mon père pour ne pas être français.
Comment cela?
Je suis français tant que je n'opte pas.
Je veux bien l'admettre. Quant à vous trouver une situation, c'est autre chose. Il faut d'abord que je prenne des renseignements. Vous conviendrez avec moi que c'est légitime. Vous n'avez qu'à revenir me voir avec vos diplômes, enfin tout ce qui peut être utile. D'ailleurs, je ne vois personne dans mes relations qui puisse vous être de quelque secours. »
Lorsque Nicolas arriva rue Eugène Manuel, il trouva sa mère qui l'attendait avec anxiété.
« Alors ?»
Nicolas se contenta de dire « Attends, je te raconterai tout. » Comme ces soldats qui gardaient des heures leurs lettres avant de les ouvrir, il aimait à retarder le plus qu'il était possible le récit d'un événement. Même lorsqu'il s'était décidé à parler, fallait-il encore le stimuler à tout moment par des questions. Finalement, il relata sa visite au Rousseau.
« J'aurais dû t'accompagner, » fit madame Aphtalion lorsqu'il eut achevé.
« Cela n'aurait rien changé, on ne peut rien leur faire comprendre.
Je t'assure que si je t'avais accompagné, cela se serait passé autrement.
Fallait venir.
« Mais je ne savais pas. »«
Vas-y demain. »«
Maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Son idée est faite. Le mieux, en attendant, est d'aller voir M. Prudhon, par exemple. Il a de grands fils. Il doit connaître toutes les portes où on peut frapper. Cette fois, je me ferai violence et je t'accompagnerai. »
Il répugnait à Madame Aftalion de revoir toutes ses familles qui avaient plus ou moins connu ses parents. Lorsqu'elle avait suivi Alexandre, c'était nettement qu'elle avait rompu avec tous ces gens qui désapprouvaient sa conduite. Aussi, aujourd'hui, se trouvant dans cette situation que tous avaient prédite, éprouvait-elle une gêne à les solliciter. Elle eût pu mentir, donner le change, laisser croire qu'elle était riche et que c'était simplement parce qu'elle ne voulait pas que son fils fût désœuvré qu'elle lui cherchait une occupation, mais son caractère se refusait à cette comédie, non par franchise, mais parce que son orgueil ne put souffrir qu'on devinât, à des riens, la vérité. Une semaine plus tard, ce fut encore seul que Nicolas se rendit chez M. Prudhon. Mais cette fois, il n'eut aucune humiliation à supporter. M. Prudhon était mort depuis 7 ans et sa famille est dispersée. Chaque jour, les Aftalion allaient voir quelques parents ou amis et revenaient désemparés de ses visites. C'était toujours, au fond, le même accueil, au point que les Aftalion étaient frappés, sans qu'ils s'en rendissent d'ailleurs compte, par cette similitude des gens, sous des dehors tellement différents. Plusieurs fois déjà, le propriétaire de l'appartement meublé leur avait fait des observations. Ancien rentier, il était aigri d'être obligé de travailler pour vivre, de sous-louer la moitié de son appartement. Aussi ne manquait-il pas de manifester sa rancœur. Souvent, le soir, Nicolas portait en rentrant des prospectus de papier glacé qu'il demandait dans des agences de voyage et qui représentaient l'Engadine, Venise, Interlaken. Les Aftalion rêvaient alors de partir pour ces pays, d'y vivre paisiblement, de faire des excursions, et après le dîner, de s'attarder dans le hall de leur hôtel. Bien qu'il ne restât plus grand-chose des 20 000 francs à portée de Nice, ils ne parvenaient pas à se restreindre. Ils avaient beau jurer que le lendemain, ils ne dépenseraient pas un centime inutilement, c'était plus fort qu'eux. Pourtant, il arrivait que durant toute une journée, ils n'achetaient pas de journaux, ne buvaient pas de vin, n'entraient dans aucun café et ne prenaient pas d'autobus. Le soir, ils calculaient ce qu'ils avaient ainsi économisé. Mais le lendemain, comme si ce frein avait décuplé leurs désirs, ils allaient, pris d'une fièvre de dépenses, déjeuner dans un grand restaurant, puis dans un music-hall ou un cinéma des boulevards. Après la représentation, quand ils se retrouvaient dehors après plusieurs heures d'oubli, leur détresse leur apparaissait si grande qu'ils n'osaient regagner le triste appartement de la rue Eugène Manuel et que, sur cette parole consolante, « Ce n'est pas cela qui changera notre situation », ils s'attablaient au Café de la Paix pour lequel ils avaient une prédilection et ensuite choisissaient un restaurant bruyant et gai pour dîner. La soirée, ils la passaient de nouveau dans quelques théâtres et à minuit, exténués, las, dégoûtés d'eux-mêmes, ils rentraient enfin. Alors, ils décidaient sincèrement de changer leur vie. Le matin, ils ne touchaient pas au beurre, qui se trouvait pourtant dans le garde-manger, comme pour se punir. Mais Madame Aftalion ne tardait pas à faiblir. Le besoin d'acheter dont elle ne pouvait se défendre la reprenait. Malgré elle, quand son fils disait par exemple « Cette cravate est passée », elle répondait aussitôt « Tu n'as qu'à t'en acheter une autre ». S'il se plaignait de l'eau de Cologne, elle observait « C'est bien, je passerai cet après-midi chez Guerlain ». Lorsqu'elle sortait, elle s'arrêtait devant tous les magasins, entrait demander les prix, prenait un taxi pour faire quelques centaines de mètres. C'était une autre femme. Elle oubliait sa situation, ne pensait plus à rien. Pour que le plaisir d'acheter durât plus longtemps, elle s'éternisait avant d'arrêter son choix sur un colifichet quelconque. Rien ne lui était plus agréable que d'être entourée de vendeuses. À ces moments, comme un joueur, elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Nicolas, lui, devenait de plus en plus irritable. Son ambition insatiable d'être continuellement muré de tous côtés le rendait nerveux. En se promenant, il faisait des calculs sur les trains de vie, se demandant par exemple si 100 000 francs par an permettraient d'avoir une automobile et un chauffeur. Il se renseignait auprès de sa mère. Elle l'écoutait, ravie de l'entendre parler, l'interrompant parfois pour lui dire « C'est fou ce qu'une femme peut coûter. Les toilettes, les bijoux, cela n'a pas de prix. » Ou bien, l'argent n'a plus de valeur quand on veut s'entourer de belles choses. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans le raffinement. Si tu voyais ces robes que l'on fait aujourd'hui, ce sont des merveilles. D'un caractère méticuleux, Nicolas dessinait déjà le plan de l'hôtel particulier qu'il se proposait un jour de faire construire. Il avait arrêté dans son esprit les magasins où il achèterait l'ameublement, le tailleur qu'il habillerait, les cafés qu'il fréquenterait, les voyages qu'il ferait. Quand il se promenait, il était un aspect de la ville qui frappait son imagination et qui lui semblait une des formes du luxe auquel il tendait. C'étaient les passages violemment illuminés et ces halls dont les tapis, les lustres et surtout ces petites vitrines appliquées contre les murs l'éblouissaient. Il restait en ses yeux des heures sans se lasser, éprouvant une sensation de chaleur, de bien-être, au milieu des promeneurs qui flânaient, cependant que des sons d'orchestre venus on ne savait d'où retentissaient. 2 mois passèrent ainsi sans qu'un événement vînt modifier l'existence des Astalions. « Si nous gardons cet appartement, fit Louise en matin, il ne restera plus que 200 francs quand nous aurons payé le loyer. » Ils décidèrent alors de prendre 2 petites chambres dans un hôtel. La veille du jour où ils devaient quitter la rue Eugène Manuel, Nicolas retint, rue de Calais, au Knox Hotel, 2 chambres dont l'une donnait sur la rue, l'autre sur la cour, et dont le prix, à elles deux, n'atteignait pas à la moitié de celui de l'appartement meublé.